بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Donc, alhamdoulilah, nous reprenons donc ces programmes sur Ya'juj ou Ma'juj. Et ce qu'on avait fait la dernière fois, enfin, le dernier cours sur Ya'juj ou Ma'juj, on était censé parler de l'organisation de la société. Et puis, on avait dévié sur d'autres sujets. Mais, Inch'Allah, aujourd'hui, on va rester dans le point qu'on va développer, Inch'Allah, l'organisation de la société des Ya'juj ou Ma'juj, des Gog et Magog. On avait vu la dernière fois quelques précisions concernant la nature de ces makhloukat, la nature de ces créatures. On avait confirmé que c'était des êtres humains, comme vous et moi, descendants de Hazrat Adam alayhi salam et de Hawa alayhi salam, mais descendants de Nuh et d'une certaine descendance avec des différences. Avec des différences et principalement dans la longévité. On avait vu que certainement ils vivent beaucoup plus longtemps que nous, puisqu'Allah Azza wa Jal leur accorde énormément, hein, une grande progéniture, énormément d'enfants avant que l'un d'entre eux ne meure. Alors les hadiths ne précisent pas si quelqu'un pouvait éteindre le ventilateur, barakallahu fik. Les hadiths ne précisent pas que ces personnes vivent 100 ans, 200, 300 années, mais vu le nombre d'enfants qu'ils peuvent avoir, on avait vu qu'il n'y a que deux possibilités. Soit non, le ventilateur c'est par la main, le bouton. Ah, de l'autre côté, d'accord. Donc on revient, il y a deux possibilités. Soit ils ont une espérance de vie très élevée, d'accord, ou alors les épouses de Ya'juj ou Ma'juj ont la possibilité de donner naissance à des enfants avec une gestation inférieure à 9 mois. Mais on ne s'avance pas parce que les textes ne le précisent pas. Mais vu le nombre d'enfants qu'ils auront, c'est sûr qu'il y a des différences dans la manière d'évoluer, dans la manière de vivre, on va peut-être même dire sur le plan génétique. Et là, je m'avance, d'accord? Sur le plan génétique, wallahu a'lam, il doit y avoir des différences. Et puis, on avait fait la relation avec un descendant, allez, ça c'est personnel, mais descendant de Nuh alayhi salam, peut-être ont-ils gardé des gènes qui étaient propres à la population de Noé, de Nuh alayhi salam. Nuh alayhi salam avait invité son peuple combien d'années? 950 années, c'est-à-dire près de 1000 années. Et en général, les Anbiya devenaient prophètes à 40 ans, parce que c'est 40 ans qu'on obtient la sagesse, d'accord? Donc, on peut dire que, on peut s'avancer et dire que ces makhloukats, ces êtres humains, d'accord, peut-être ont-ils gardé quelque chose propre aux générations, au peuple, à l'époque de Noé, à l'époque de Nuh alayhi salam, qui vivait à peu près 1000 ans. Chaque personne vivait à peu près 1000 années, d'accord? Wallahu ta'ala a'lam. Le but n'est pas réellement de déterminer qui sont-ils, comment sont-ils, ni où sont-ils, d'accord? Mais le bien, très certainement, l'être humain a besoin de savoir. Hein? En restant des insan, on a parfois besoin de savoir, pas besoin de savoir pour croire. Ce n'est pas le fait de plus connaître des détails ou des hadiths ou des descriptions sur Ya'juj ou Ma'juj. Ce n'est pas ça qui doit renforcer notre foi, non. Le mu'min doit croire à l'existence de ces créatures. Qu'ils comprennent, qu'ils ne comprennent pas. Qu'ils intègrent, qu'ils n'intègrent pas. Qu'il arrive à concevoir qu'autant de personnes puissent vivre dans un endroit aussi restreint, vivre aussi longtemps depuis l'époque de Dhul-Qarnayn jusqu'à notre époque, ou qu'on n'arrive pas à concevoir. Dans tous les cas, le mu'min se doit d'avoir iman dessus. Parce que ça, c'est quelque chose d'important. Ça fait partie de la foi en l'au-delà. Les ashrar, tous sa'a, les signes de qiyama, les ulama disent que c'est en rapport avec l'au-delà. Parce que c'est des choses qui ont lieu dans ce monde, mais ce sont des créatures qui viennent du monde. Enfin, on va dire que Gog et Magog, en même temps, l'être humain, hein, c'est pas l'appareil, c'est pas comme Isa al-Sam qui revient du ciel. Mais les ulama disent que les signes de qiyama, ça fait partie de la foi en l'au-delà. Donc c'est iman, c'est aqaïd, et nous devons avoir une conviction inébranlable sur ces points-là, même si on ne les comprend pas tous. D'ailleurs, depuis le début, il y a plein de choses qu'on ne comprend pas. Depuis le début des signes de Qiyama, il y a plein de choses qui, je ne dis pas qu'ils sont incohérents, incohérents à nos yeux, même pas à nos yeux, incohérents aux yeux de quelqu'un qui ne croit pas au texte, qui n'a pas la foi en l'invisible, par rapport à la logique humaine. Depuis le début, il y a des choses qui ne collent pas. Dès le départ, quand on avait parlé de Mahdi qui vient, et qui, du jour au lendemain, inverse les choses. Il n'y a jamais eu dans l'histoire d'une population un homme qui inverse le cours de l'histoire. Ce n'est pas possible, ça. Ça peut se faire, Allah Akbar, en un siècle et demi, hein, ou une civilisation qui s'éteint et une autre qui prend le relais. Voilà une civilisation qui était opprimée, peu à peu, hein, ils refont surface jusqu'à devenir des leaders et puis ils commencent à avoir une certaine prospérité, s'enrichir et ensuite devenir une civilisation modèle, phare, exemplaire, d'accord? Mais ça, ça ne se passe pas en quelques années. Alors que lorsque l'imam Mehdi vient, c'est radical. Immédiatement, la Oumma passe de l'état le plus catastrophique qu'ils n'ont jamais connu. L'état la plus... Là, quand on parle d'islamophobie, quand on parle là, ça fait rien, ça. Certes, c'est des choses compliquées, hein, de le quotidien, ceux qui le vivent, hein, c'est pas simple, hein. On n'a pas le droit de simplifier les choses, mais je veux dire que par rapport à l'histoire, par rapport au passé et par rapport au futur, ce qu'il se passe en ce moment, certes, on peut parler d'actes islamophobes, etc., mais ce n'est rien par rapport à ce que les sahabas ont vécu. Et lorsque les sahaba vivaient ces difficultés, le prophète alayhi salat wa salam les rappelait qu'il y avait des gens avant eux, dans les communautés avant, qui vivaient des situations pires que ça. Lorsque à Mecca, parce que les difficultés étaient principalement à Mecca, pendant la période mécoise, lorsque les sahaba, à un moment donné, se plaignaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam, au prophète d'Allah, quand est-ce qu'Allah va envoyer son aide? Le prophète alayhi salat wa salam encourageait les sahaba en les rappelant qu'avant vous, il y avait des gens qui ont vécu comme vous, qui croyaient en un Dieu unique, mais qui étaient combattus pour leurs croyances. Et qu'est-ce qu'on faisait avec ces gens-là? Si quelqu'un connaît le hadith, on les enterrait. Le hadith connu, ça. On les enterrait jusqu'au cou, on laissait leur tête donc à l'extérieur, et on passait un peigne, donc le terme n'est peut-être pas adapté, mais une brosse avec des poils de fer sur le crâne jusqu'à enlever la peau et arriver jusqu'à l'os pour que ces personnes-là quittent la foi. Mais ils restaient fermes de l'iman. Le prophète alayhi salatu wassalam avait cité cet exemple aux sahaba pour qu'ils comprennent que certes, on vous insulte, certes, on vous chasse de vos familles. Il y en a qui ont été chassés de leur famille. Quel est ce jeune sahaba qui a été chassé de sa famille? Salih. Le jeune sahaba qui était chassé, un jeune homme riche, beau, qui avait tout, l'homme le plus, on va dire, hein, le plus, un homme béni, on va dire, un jeune homme comblé de bienfaits. Comment il s'appelait, sahaba? Mus'ab bin Umair, radiallahu anhu. D'accord? Des gens comme lui qui ont connu, qui passent de l'état, subhanallah, de richesse extrême, à l'état, je ne dis même pas de pauvreté, hein, au-dessous du seuil de la pauvreté. La seule chose qui fait qu'il est passé de cet état, c'est qu'il n'a pas voulu abandonner l'adoration d'Allah. Il n'a pas voulu retourner vers l'adoration des ancêtres. Par rapport à ça, il a été chassé de sa famille. Et lorsqu'il est mort dans le champ de bataille, honoré par Allah, il a donné son âme, sa vie, son corps pour Allah, qu'est-ce qui s'est passé? On n'avait même pas assez de vêtements pour couvrir son corps correctement. Si on couvrait sa tête, ses pieds ressortaient. Et si on essayait de couvrir ses pieds, sa tête ressortait. Bref, ça c'est l'histoire de Moussa bin Umair. La seule chose qui fait que ce sahaba, il a connu cet état, on va dire, chaotique à nos yeux, aux yeux d'un être humain, c'est qu'il a voulu garder la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Comme Bilal ibn Rabah, radiallahu anhu, quand on le persécutait, on mettait des pierres sur sa poitrine, des histoires connues. La seule chose qui faisait qu'il restait, il résistait, mais il voulait garder quand même, il voulait rester dans cette souffrance, c'est de ne pas rejeter la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Donc quand le Prophète, il parlait de ça aux sahaba, lorsque les sahaba se plaignaient de ces situations, le Prophète les rappelait les gens avant. Et dans le futur également, la situation, elle sera catastrophique. Comme on l'avait vu au tout début, il suffira qu'une personne proclame sa foi, qu'il est musulman, qu'il croit en un Dieu unique, que la personne sera immédiatement combattue. Ce sera à la fin des temps et à cette époque-là, Imam Mahdi va venir. Et donc, quand Imam Mahdi vient, il change la situation de cette Ummah, 360 degrés, au degré du niveau le plus bas, le plus d'humiliation, le plus de persécution, va ramener l'izza, l'honneur à cette communauté. Donc ça déjà, c'est quelque chose qui est difficilement concevable. Si on demande à un historien, comme on a dit tout à l'heure, est-ce qu'il y a eu des peuples qui sont passés d'un état extrême à l'autre en un espace de quelques années, ils vont dire que non, ça c'est pas possible. Il faut des générations pour qu'un peuple se transforme. Ada. Également, lorsqu'on avait parlé de Dajjal, tout est incohérent dans Dajjal. Il n'y a rien qui est compréhensible, les miracles de Dajjal, ce qu'il fait, etc., etc. Dajjal qui existait déjà depuis l'époque avant l'islam et tout d'un coup il apparaît. C'est des choses qu'on ne comprend pas. Dans Ya'juj et Ma'juj également, l'emplacement où est-il? Il est dans un endroit alors que, soi-disant, on a découvert tous les endroits, toutes les îles, etc. On aurait su où il était. D'accord? Incohérent. Gog et Magog, pareil. Retour de Isa, alayhi salam. Attendez, un homme qui, après 2000, ou alors je ne sais pas quand il va revenir, après 2100, 2200, 2300 années, qui revient, et qui, exactement comme lorsqu'il a quitté ce dunya, physiquement, la même âge, et également la même situation, hein, les cheveux encore mouillés, il venait de prendre un bain, après 2300, 400, 2500, Wallahu alam, il revient, les cheveux encore mouillés, c'est incohérent ça. Ça, c'est contraire à toutes les lois de physique, de biologie, d'évolution des cellules, de vieillissement, bref, d'accord? Vous voyez, dans tout ça, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Tout simplement parce que c'est du raïb, c'est de l'invisible. C'est des choses qui interviennent dans ce dunya, mais qui sont liées à l'au-delà. Et quand les choses de l'au-delà, encore une fois, on le répète, quand les choses du monde de l'invisible, de l'au-delà, interviennent dans ce monde, c'est que ce monde va bientôt prendre fin. Donc pareil, pour Ya'juj et Ma'juj, on ne doit pas s'étonner de ce qu'on va voir concernant le nombre. On a vu déjà le nombre de personnes, le nombre d'individus qui composent ces deux populations, Gog et Magog, et qu'on va voir peut-être aujourd'hui où ils se trouvent, quel endroit géographique. Il n'y a pas à s'étonner que comment peuvent-ils être entassés dans un endroit et vivre là depuis des générations, depuis avant Isa alayhi salam. Depuis avant Isa alayhi salam. Ça fait depuis plus de 2013 années et plus encore, parce que la construction du Sed, la construction du mur, on va dire, que Dhulqa'nayn avait fait, c'était entre l'époque de Moussa alayhi salam et de Isa alayhi salam. Donc, ça fait peut-être 3000 années que cette population vit confinée, enfermé dans cet endroit, près de cette région. Ça va nous paraître incohérent, impossible, tant sur le plan spatiaux que temporel. Par rapport à l'espace, ça ne peut pas contenir, par rapport au temps, mais c'est le rêve. Ça fait partie de l'invisible, comme tous les autres signes qu'on avait vus au début. Alors, donc, l'organisation de leur société, dans le commentaire de Sahih Bukhari ibn Hajar al-Asqalani, on avait expliqué qui était ibn Hajar, qui a commenté quel livre, Rachid? Ya Allah, hein? Bukhari, qui a commenté donc Bukhari, ibn Hajar explique que anna fihim ahlu sina'a wa ahlu wilaya, etc., etc., que parmi les Ya'juj ou Ma'juj, il y a des populations qui travaillent avec leurs mains, il y en a d'autres qui sont les dirigeants de cette société, sous l'art, d'autres qui commandent, d'accord, etc., etc. Voilà. Il dit que certainement parmi eux, il y en a qui connaissent Allah. Il y en a qui, soit ils avaient, il y a une présence de iman, soit ils ont entendu parler du kalima, du shahada. Ils ont entendu parler d'Allah. Il dit certainement c'est une de ces personnes qui, le jour où ils vont détruire ce mur et rentrer dans ce dunya, c'est peut-être cet individu-là qui dira le fameux Inch'Allah, pour que le mur soit détruit. Et regardez la relation qu'Ibn Hajar, il fait. Il dit que « وَيَحْتَمِلُ أَن تَكُونَ ذَلِكَ الْكَلِمَ تِلْكَ الْكَلِمَ » dit qu'il est possible que cette kalima, cette parole, elle soit dite par quelques-uns de ces personnes, de ces individus qui avaient entendu, qui connaissaient le sens de « la ilaha illallah ». Donc, selon lui, peut-être que c'est des gens qui déjà, à cette époque, existaient et qui existeront toujours, jusqu'à l'époque où le mur sera cassé. C'est des gens qui avaient entendu parler d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais les hadiths ne précisent pas qu'il y a des mu'mines parmi eux. Les hadiths ne précisent pas que dans cette population, il y a des gens qui adorent Allah, non. Sachant que les hadiths ne précisent pas, on peut penser qu'ils sont tous des kuffars, ils n'adorent pas Allah. Parce que si parmi eux, il y en avait qui faisaient l'adoration d'Allah, ben, ils auraient empêché ce genre d'acte où les hadiths auraient relaté qu'il y avait des divergences entre eux, que certains n'acceptaient pas tout ce qu'ils vont faire comme des ordres lorsqu'ils vont sortir. Donc Ibn Hajar dit certainement, à leur époque, ils avaient entendu, parce que Dhulqarnayn invitait vers Allah. Le da'wa de Dhulqarnayn, c'était vers l'adoration d'Allah, l'unique, d'accord? Peut-être que certains avaient entendu parler d'Allah, et que avant la destruction du mur, ça sortira de leur bouche cette fameuse parole de Inch'Allah. Donc nous voyons qu'Ibn Hajar décrit ces gens-là comme une population organisée, exactement comme la nôtre. Donc ça démystifie un petit peu tout ce qu'on peut penser parfois sur ces populations. Il y a un autre hadith également, et ça, on avait cité, je pense, en introduction, ça c'est la description. Il y a un hadith que, on prend des photos des hadiths maintenant parce que c'est plus rapide, plutôt que d'amener plein de livres. Il y a un autre texte également qui explique que les Ya'juj ou Ma'juj se marient et ont des enfants. Mais ça, on avait déjà vu. Bien, le fait qu'ils se marient, et voilà, ils se marient avec des épouses et donc, d'accord. Et on pourrait dire, peut-être même en commentaire, que Gog et Magog se marient avec des femmes. D'accord. Un Gog se marie avec une femme. Un Ma'juj, il se marie avec une femme et non pas entre monsieur aussi. Donc, peut-être que ils ont quand même pu garder ces gènes qui font partie de la race humaine. Donc, des personnes qui nous ressemblent, mariées, enfants, travail, on pourrait dire, une société totalement organisée, mais qui attend son heure pour s'émanciper. Donc, ça, c'était description de cette communauté. Après avoir vu qu'ils sont humains comme nous, mais avec certainement des différences génétiques. Il nous reste un second point à voir aujourd'hui, Inch'Allah, un point très important concernant l'endroit éventuel, l'endroit probable où se trouverait au conditionnel Ya'juj ou Ma'juj. Alors, les versets de Sourate Kahf, ils expliquent que Dhulqarnayn avait construit ce fameux Sadd. Sadd, on ne veut pas dire mur, parce que si on dit mur, immédiatement on va penser à la muraille de Chine. Non, ce n'est pas du tout ça. Donc, on va dire une barrière. On va dire une barrière. Mais là aussi, quand on dit barrière, pour nous, c'est une petite barrière. Non, c'est quelque chose de gigantesque, ce que Dhulqarnayn a construit. Donc, Dhulqarnayn avait construit à partir de hadid, à partir de fer et de nuhas. Nuhas, c'est du cuivre, d'accord? Entre deux montagnes. Donc, c'était vraiment un barrage, on pourrait dire. Un barrage qu'il a construit avec ces deux métaux-là, entre deux montagnes. Donc, déjà, c'est une indication. C'est une indication qu'ils se trouvent entre des montagnes. Et les ulama disent que lorsqu'Allah va leur donner la possibilité de sortir, là ce sera le grand signe. Mais les textes ne précisent pas où ils se trouvent. Les textes ne précisent pas où ils se trouvent parce que le mu'min doit croire à ces créatures, comme on l'a dit, sans pour autant les voir ou connaître où ils se trouvent. Donc ça c'est un principe. Ibn Abbas, radiallahu anhuma, c'est mawquf, c'est lui qui le dit, dit que cette population se trouve à la fin de Bilad al-Turk, à la fin de l'empire des Turcs. Mais quand Ibn Abbas parle des Turcs à son époque, c'est peut-être pas la même Turquie qu'il y a à notre époque. Peut-être que les frontières étaient beaucoup plus larges. Donc là, il faudrait faire appel à des gens qui connaissent l'histoire, la géographie. Oui, l'histoire et la géographie. À telle époque, il y a 1400, à l'époque d'Ibn Abbas, on va dire il y a 1300 années, comment étaient organisées les populations, etc. D'accord. Il dit que Mimma yali Arménia ou Azerbaïdjan. Azerbaïdjan, pas Badjan, d'accord. C'est un pays qui s'appelle Azerbaïdjan. Il dit proche de l'Arménie. L'Arménie, c'est connu quand même. Ça existe toujours, non? Il n'a pas été envahi? Non, il n'y a pas de pétrole là-bas. Près de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan. Donc, ça, c'est l'opinion d'Ibn Abbas, radiallahu anhuma, qui est citée par Al-Tabari et par Al-Qurtubi, et citée par quatre mufassirs. Subhanallah, il y a Tabari, il y a Qurtubi, Al-Alusi, grand mufassir, et Al-Baydawi. Quatre grands mufassirs qui citent donc l'opinion d'Ibn Abbas. Et quand Ibn Abbas, radiallahu anhuma, dit quelque chose, en général, c'est vrai. Parce que c'est le plus grand mufassir de la Ummah. C'est l'homme qui avait le plus compris le Coran et les paroles d'Allah Azza wa Jal. Il comprenait, il allait loin dans sa compréhension, plus que les autres sahaba, parce qu'Allah lui avait donné la compréhension des textes. Et là, je reprécise, Allah lui avait accordé la compréhension des textes. Une fois, il était au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète lui avait fait ce doigt magnifique, « Allahumma faqihu fid din wa allimhu ilma at-ta'wil » où Allah accorde lui le tafaqquh, la compréhension de la religion, et où Allah enseigne lui la compréhension. At-ta'wil, c'est at-tafsir. Et enseigne lui donc le tafsir, c'est-à-dire la compréhension, on peut dire qu'il puisse décrypter le Coran, les versets du Coran. Une fois, le prophète sallam avait cité un verset, aucun sahaba n'avait compris le sens réel, à l'exception de Ibn Abbas, radiallahu anhuma, alors qu'il était encore un enfant. Lorsque le prophète sallam est décédé, non, lors du pèlerinage d'adieu, Ibn Abbas avait à peu près 14-15 ans. À cet âge-là, déjà, c'était un phénomène, avec tout le respect, en compréhension du tafsir. Et là, encore une fois, je le répète et je répéterai Inch'Allah jusqu'à ma mort, Ibn Abbas avait eu de la part d'Allah la compréhension des textes et non pas une science infuse. Ce n'est pas le fameux ilm ladoun, l'inspiration qu'Allah met dans le cœur des saints, des waliyullah. Là, wallah, ça personne n'a eu, personne ne l'aura. S'il y a des gens qui auraient pu avoir une science de la part d'Allah, c'était les sahaba, ridwanullahi alayhim ajma'in. Alors qu'il y a eu des masa'il, il y a eu des cas de figure où les sahaba eux-mêmes divergeaient. Il y avait des cas de figure où les sahaba, ils ne savaient pas quelle décision prendre. Donc si quelqu'un devait recevoir une science infuse de la part d'Allah, ça aurait été eux. Et surtout à des moments extrêmement graves. Lorsque le prophète est décédé, on a l'armée de Usama qui est prête. Avec de l'armée de Usama, Umar ibn al-Khattab et les grands sahaba qui vont affronter les Romains. Et c'est loin ça. Et à la même époque, on a certaines tribus arabes qui ne voulaient plus payer la zakat. Certaines tribus arabes qui ont fait ridda, apostasie. D'autres personnes qui ont une inspiration, qui pensent être prophètes. Des fitna, des problèmes. Après le décès du prophète. Donc là, les sahabas disent que non, oh Abu Bakr, tu ne peux pas envoyer Oussama avec tous les musulmans. Ce n'est pas possible. Il y a des tribus qui attendent pour nous attaquer. Oh Abu Bakr, garde ces gens-là ici. L'intégralité des sahabas, tout le monde, disent Abu Bakr, laisse l'armée d'Oussama ici, annule cette ordre du prophète sallam. Comprends maintenant dans le contexte. Abu Bakr dit, là, wallah, le prophète a dit et on exécutera son ordre. C'était un moment très grave dans l'histoire de l'islam, mais Allah n'a pas mis la science infuse. Non, Abu Bakr, pour lui, c'était un principe. C'était le désir, par exemple, cette armée doit partir avec à sa tête un jeune homme. Un jeune homme qui avait 18 ans, si je ne me trompe pas, à cette époque. Il avait sous son commandement Umar ibn al-Khattab, des géants de l'islam. Donc, dans des moments très importants comme ça, il n'y a pas eu d'inspiration divine, non. Il devait comprendre les textes comme le prophète alayhi salatu wassalam les avait enseignés. Donc Ibn Abbas, il situe, pour revenir, il situe ces populations-là au niveau, je vous avais dit qu'on allait amener une carte, on n'a pas fait, au niveau de la Turquie, d'accord, et au niveau de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan. Il y a d'autres historien également, un autre, là c'est pas un historien, c'est un commentateur du Coran, Al-Qasimi, un tafsir assez rare, mais très complexe, tafsir d'Al-Qasimi, très très complexe. Et Al-Qasimi, dans le tafsir, si je ne me trompe pas, de Sourate Kahf également, il donne une explication. Si on le cite, c'est parce que c'est, mashallah, on ne le retrouve pas dans Ibn Kathir ou dans d'autres tafsirs. Il dit que derrière les montagnes, derrière les chaînes de montagnes du Caucase, le Caucase, tout le monde sait sur le Caucase, c'est. Allah Akbar, la carte nous aurait été très profitable. Le Caucase, c'est près de la Russie, Biélorussie. Je ne me trompe pas, d'accord? Ok, bon. Et il y avait donc, voilà, il le situe, c'est près de Dagestan, ça existe toujours à ce moment-là, d'accord? Bien. Et donc, il y avait deux tribus qui, historiquement, ont toujours habité dans ces régions. C'est les Aqouq et les Maqouq. Ça, c'était dans la langue de ces gens-là. Dans la langue locale, ces deux tribus étaient connues historiquement, les Aqouq et les Maqouq. Et il dit que les Arabes, lorsqu'ils prononçaient, ils avaient arabisé donc le nom de ces tribus en les appelant Ya'juj et Ma'juj. Donc, voyez bien, ils les situent derrière les chaînes de montagnes du Caucase, près du Dagestan, d'accord? Donc, on a d'autres indications d'Arastan, on a l'Arménie, on a l'extrémité de la Turquie et l'Azerbaïdjan. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'ils apparaissent dans cette région. On va appeler ça comment, l'Asie? L'Asie mineure, l'Asie majeure, je ne sais pas comment on appelle ça. Dans cette région du monde, près de la Russie, entre l'Asie et la Russie. D'accord? Asie, quand on parle d'Asie, c'est bien sûr la Chine et la Russie. Il dit également, Al-Qasimi, Wamin Huma et de ces deux tribus, Tanas al-Kathir, Min Umam al-Shimal wa al-Sharq fi Russia wa Asia, et de ces deux tribus historiques, il y a eu des descendances que nous retrouvons parmi les tribus, parmi les tribus russes et parmi des tribus du nord de l'Asie. Au nord de l'Asie et dans certaines régions de Russie, il y a des descendants de ces deux grandes tribus historiques, les Aqouq et les Maqouq, qui correspondent donc au Ya'juj wa Ma'juj. Autre Mufassir, Al-Mawdoudi, moins connu, qui fait un commentaire également de Sourate Kahf, il dit également, lui aussi il situe. Voilà. Donc ça, c'est des opinions de Mufassirin qui ont vécu à des époques différentes, dans des endroits différents. Peut-être parfois des écoles de pensée différentes, mais ils sont unanimes. Voyez que pourquoi est-ce qu'on cite plusieurs opinions? Que c'est unanime, qu'ils viennent de cette région. D'accord? Lui aussi, il dit Milkaba il Russia Washima Lusin, les mêmes termes, nord de la Chine et la Russie. Et lui, il y va plus loin, il dit que les tribus des Tatars et des Maroles. Les Tatars, pas de Sospata, Azerbaïdjan, ça donne la fin là. Les Tatars et les Mongols. Dit que les Tatars et les Mongols sont les descendants de Ya'juj wa Ma'juj. Donc si quelqu'un veut voir à peu près à quoi ressemble un Gog et à quoi ressemble un Magog, qu'il fasse un petit voyage tranquille jusqu'en Mongolie. C'est près de la Chine, ça. Il va en Mongolie et les Tatars, ça correspond à quoi maintenant? Les Tatars, c'était des monstres, ça, hein, à l'époque. Les Tatars, ils avaient envahi l'Irak. D'accord? Il n'y a pas que d'ailleurs. Ils avaient envahi l'Irak et ils avaient fait des choses terribles. Lorsque les Tatars, ils ont brûlé les bibliothèques d'Irak qui contenaient une quantité de livres islamiques exceptionnels, ils ont pris les livres islamiques, ils l'ont jeté dans le fleuve. J'ai plus le nom du fleuve en tête. Dit qu'ils ont tellement, il y avait tellement de livres qui ont été jetés que, il y en a qui connaissent la suite, l'encre avait coloré l'eau du fleuve. C'était quel fleuve?
Le Tigre.
Le Tigre, voilà. Le fleuve s'appelle le Tigre, d'accord? Et l'eau était devenue bleue. Tellement il y avait de livres, de kutub qui avaient été jetés dans ces fleuves. C'est une population terrible, ça, les Tatars. Maintenant, de nos jours, est-ce qu'ils existent toujours? Je ne connais pas. D'accord? Ou alors, certainement, bon, leurs descendants, maintenant, les situer géographiquement, hein, Wallahu alam. Mais si on dit que c'est près de la Mongolie, ben, c'est à peu près, Wallahu alam, ces régions, d'accord? Donc, ce sont les populations qui ressemblent le plus aux Gog et Magog, et on verra par la suite dans la description physique de ces gens que, ben oui, quand on les décrit, ben ça ressemble à ces populations. Et il dit que les Tatars et les Magols, et les Mongols, parce qu'en arabe dit les Maroules, les Mongols avaient une haine contre les populations avoisinantes. Il y avait une haine historique avec les populations avoisinantes. Et on comprend mieieux d'ailleurs maintenant quand Dhulqarnayn ira de ces régions, hein, et il rencontrera des gens qui vont le supplier de construire un mur pour les protéger de ces gens-là, parce que c'était des guerriers. Les Tatars et les Mongols, à cette époque, étaient des guerriers qui n'arrêtaient pas de lutter contre les populations avoisinantes. Et puis, il y a un historien chrétien, assez intéressant également. Bon, ils ont juste mis son prénom, Jérôme, mais ça ne donne pas de grande indication. Donc ça, c'est pas un musulman, ça c'est intéressant parce que là c'est de l'histoire, d'accord, et c'est quelqu'un qui ne s'appuie pas sur les livres islamiques, et il dit que ces populations là il les situe Shimal al-Qoukaz, au nord du Caucase, près de, alors il parle d'une mer qui s'appelle Bahr al-Khazar, de Khazar. Je sais pas si cette mer existe toujours. En arabe c'est la mer de Khazar, Khazera, d'accord. Et dans cette région se trouve donc cette mer, et une mer qui s'appelle, bon, en arabe, Al-Bahr al-Aswad, la mer noire. Il y a une mer noire? Il y a toujours, hein? D'accord. Oula, la géo, c'est très, très, très loin, excusez-moi. D'accord? Donc, près de la mer noire, près de la mer de Khazar, d'accord? Il y a chaîne de montagnes, de coca, etc. C'est les mêmes choses qu'on a dit depuis tout à l'heure. Voilà. Et il dit qu'entre ces chaînes de montagnes, il y a une grande espace, une plaine gigantesque. Et il dit que donc, selon lui, ces populations-là devaient certainement habiter de ces endroits-là, et le mur a été construit dans ces endroits. Donc ça, c'est intéressant, c'est l'opinion d'un historien qui n'est pas musulman, qui est chrétien, et il faut savoir que les chrétiens croient en Gog et Magog. Ça, il faut qu'on intègre, hein. Les Nasara croient au retour de Jésus-Christ, de Isa alayhi salam, et ils croient également à l'Antéchrist, bien sûr, et ils croient également à Gog et Magog. L'histoire se trouve dans la Bible. Donc, il est logique que chez les chrétiens également, leurs savants ou leurs historiens, ils aient fait des recherches et ils situent ces populations aux mêmes endroits que les commentateurs du Coran ont situé. Et en conclusion, l'auteur du livre dit que voilà, ce sont là, la carte était là, ce sont là des indications. Ce sont là des indications. Bon, la carte est en arabe, j'avais oublié. Donc, il aurait bien peut-être le traduire. Donc, ben là, je vois Tbilissi, je vois Turquie, Bagdad, Iran, Ouzbékistan, Afghanistan. Voilà, on a à peu près la région, d'accord? Et il dit que, voilà, nous pouvons à peu près situer hein, l'endroit où serait enfermé Gog et Magog. Il a dit, mais al-jazmu bil makan, on ne peut pas dire avec ilm yaqin, conviction, c'est à cet endroit. Parce que si il était de notre devoir de connaître où ils étaient, Allah nous aurait dit. Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous aurait informé. Si le prophète n'a pas jugé nécessaire d'informer la umma où exactement se trouvent ces gens-là, c'est qu'il n'y a rien à gagner dedans. C'est qu'il n'y a pas d'intérêt. Maintenant, comme on a dit, et ça c'est un peu la curiosité humaine qui veut que, ben, peut-être parfois pour évacuer des doutes, pas des doutes, mais hein, des questions qu'on peut se poser, questions de cohérence, questions de logique, d'accord ? On a des indications, mais ce n'est pas l'objectif, parce que ça c'est raïb, ça fait partie de l'invisible, ça fait partie des choses qu'Allah n'a pas dévoilées. Lorsque les Quraysh avaient posé les questions au Prophète sallallahu alayhi wa sallam, on posait des questions sur Dhul-Qarnayn, mais pas sur l'endroit où était le mur que Dhul-Qarnayn avait construit. Donc ça c'est un point extrêmement important qu'on verra par la suite. Est-ce qu'on peut passer à la description physique ou alors c'est trop tard? On a fait combien de temps là? 31 minutes? Encore 5 minutes Rachid? Ah, c'est Rachid, il est d'accord, le pizzaïolo local. Donc voilà. On va continuer donc. Autre point, et ça c'est très rapide, hein, la description physique. Parce que là c'est en relation, si on a situé le lieu géographique, en général les gens qui viennent de telle région, ils se ressemblent. Hein, les gens qui habitent en Afrique, ils sont de couleur noire. Les gens qui sont dans l'Asie, près de l'Inde, Pakistan, ils sont asmar, hein, ils sont, comme on dit, bruns, d'accord, etc., etc. Ben, les gens qui viennent d'Asie, de cette région d'Asie-là, de Mongolie, etc., on connaît à peu près à quoi ils ressemblent. Et c'est exactement, en plus, on a une précision géographique, en plus, on a une précision sur la description physique, ça c'est hadith, et les deux concordent. Par exemple, si le prophète sallam avait dit qu'ils sont, ils sont petits, ouais, ils sont très grands, ils sont noirs, ils sont costauds, il va dire, il y a un problème là, on ne peut pas les situer près de la Mongolie, ils sont de race noire, ce n'est pas possible. Parce qu'en même temps, on a une troisième indication, qui sont descendants de Nuh alayhi salam du côté de Yafith, si je ne me trompe pas, hein, Yafith. Et on avait dit également, donc, des Yafith, il y a les Turcs, d'accord? Donc, il faut qu'ils ressemblent à ces gens. On ne peut pas dire qu'ils sont d'autres couleurs. Donc, ces trois indications nous mènent vers la même chose. Sur la descendance de quelle branche des êtres humains, le lieu, l'endroit géographique et la description physique de ces gens-là, comme on va voir. Alors, on ne va pas citer les hadiths parce que ça va être long. On a fait un petit condensé. Il dit qu'ils ressemblent aux Turcs et aux Mongols. D'accord ? Avec des yeux, les yeux petits, des petits yeux. D'accord ? Et on parle de Zalfal-Uyun, des yeux fins et petits. Donc, on comprend, des cheveux à tendance roux. Ils ne sont pas blonds, ils ne sont pas des cheveux, comme on dit, roulés. C'est des cheveux de couleur un peu roux, d'accord ? Irar dans le wujuh, le visage très large. Hein, on va dire un peu aplati, un peu large, d'accord ? Joufflu, on parle également de visage rond. J'allais dire potelé, mais ils ne sont pas mignons. Non, ils ne sont pas mignons, on peut dire potelés. Potelés, c'est pour un bébé. On parle de visage charnu, d'accord ? Et surtout, un peuple très fort, un peuple résistant, un peuple extrêmement fort physiquement. Alors, pourquoi est-ce qu'on veut bien insister sur cette description physique ? Parce qu'on veut ramener vraiment la description physique à une description humaine. Pour ne pas aller vers hein, toutes ces histoires qui parlent de différentes choses concernant Ya'juj ou Ma'juj. Et dans certains textes, il y avait un autre hadith hein, qui... Bon, on va rechercher encore la photo du hadith, on ne va pas retrouver. Il y avait un texte également qui parlait de ce que certains muhadithines ont rapporté. Hein. Si je ne me trompe pas, c'est Abu Ya'la, je ne sais pas dans quel... Mousannaf, dans un livre de hadith, on parle que... Il y a trois catégories de Ya'juj ou Ma'juj. Il y en a ceux qui sont très grands, comme un arbre, on va parler même comme des arbres, etc., etc., très fort, etc., d'autres qui sont tout petits, et il y en a d'autres qui ont l'oreille, hein, très grande oreille, quand ils dorment, je ne sais pas, ils se recouvrent avec l'oreille, etc., etc. Ben, c'est un hadith, ça. C'est un hadith. Alors, quelqu'un dit, mais ce hadith, c'est vrai? Non, le hadith, c'est maudoua. C'est-à-dire que la chaîne de narration n'est pas authentique. Et Ibn Kathir, rahimahullah, il avait expliqué qu'il y en a qui affirment qu'ils ont telle description physique. Il faut savoir qu'il n'y a aucun texte authentique qui va de ce sens. Il y avait une parole qui était quand même intéressante. Ça nous ramène un petit peu vers le manhaj de Ahlus Sunnah wal Jama'a, comment les Ahlus Sunnah wal Jama'a, voilà, ça c'est, on a retrouvé, alhamdoulilah, Ibn Hajar, on revient à Ibn Hajar, comment, qui a commenté quoi encore? Ouais, on va finir par le savoir. Ibn Hajar, qui avait commenté Bukhari, il dit que il y a certes ce hadith qui dit qu'il y en a qui sont très grands, d'autres tout petits, d'autres qui ont des oreilles immenses, qui se recouvrent avec l'oreille, etc., etc. Il dit, mais ce hadith existe, mais seulement وَأَمَّا مَا ذُكِرَ فِيهِ مِنْ اِخْتِلَافِ أَشْكَالِهِ. Mais il n'y a aucun, ce qu'on appelle shahid. C'est-à-dire, il n'y a pas d'autres hadiths, même de chaînes de narration faibles, qui va renforcer ce hadith. Ça, c'est un principe de ulum al-hadith. Il n'y a aucune autre source d'un autre sahaba avec une autre chaîne de narration qui va dans le même sens. Les autres hadiths décrivant, Ya'juj ou Ma'juj, parlent des gens qui ont autant d'enfants, etc., etc. Mais rien qui va vers ce sens-là concernant cette description physique. Il dit que donc, comme il n'y a pas de shahid, on ne peut pas affirmer, alors qu'il y avait des grands savants qui acceptaient ce hadith à l'époque. Ibn Kathir, Ibn Hajar, hein, ils sont d'avis que ce n'est pas acceptable parce que la chaîne de narration n'est pas authentique. Donc ça, c'est bien ça. Ça, c'est bien de savoir qu'à une époque, il y a eu divergence. Il y avait des grands savants qui étaient d'avis que ce hadith est bon, d'autres grands savants qui prouvent que ce n'est pas bon, et on finit par suivre la vérité. C'est pas comme à notre époque, si on entend qu'un bouzouk l'a dit, il faut faire ça, c'est ça. Tel moulissab l'a dit qu'après Namaz, il faut faire ça, ou tel moulissab avait l'habitude de faire. Lui, il l'a fait parce qu'il voulait le faire, lui. Mais c'est pas la sunna. C'est pas une sharia. C'est par exemple, hein, moi je décide, perso, qu'après chaque salat, je vous donne un exemple, qu'est-ce que je peux lire après chaque salat, hein, il y a tellement d'adhkar qui sont sunna que si on lit tout, après, bon ben on est déjà, ça prend du temps. Qu'après chaque salat, je sais pas moi, je vais lire 50 fois La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. J'ai envie de le faire. Ou alors après chaque salat, je lis 50 fois Salatu ala nabi, Durud Sharif, Allahumma salli ala Muhammad. D'accord? Mais une personne m'entend, dit oui, il a vu telle personne, il fait ça. Et donc dans 50 ans, tout le monde le fait. C'est une bid'a. La personne l'a peut-être fait pour lui. Il voulait faire ce amal perso, mais ce n'était pas pour remplacer une sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jamais de la vie. Ce qui se passe de le jour, il y a des gens qui, après leur salat, on voit, ils font ci, ils font ça, ils font plein de choses. Enfin, ça, le prophète ne l'a jamais fait. Il y a eu un homme qui l'a fait pour lui. D'accord? Mais le problème, c'est que les gens, ils délaissent les adhkar qui sont sunnah. Regardez le nombre de personnes qui, après leur salat, bon, après, il y a des gens, parfois, on est pressé, hein, on ne juge personne. D'accord? Regardez le nombre de personnes qui, après leur salat, ils s'en vont immédiatement. Alors qu'il y a tellement gagné. Regardez après leur salat tout le fajr. Il y a des fois qu'on fait salat fajr ici, on voit, hein, les gens après salat, ils s'en vont. Si seulement ils pouvaient rester 3 secondes, enfin une minute, pour lire les 10 fois La ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamdu ala kulli shay'in qadir, et terminé par Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jadd minkal jadd. Le nombre de hasanat qu'ils gagneraient, le nombre de récompenses qu'ils gagneraient en 60 secondes. Non, les 60 secondes, ils vont faire autre chose. C'est ça qui est grave, mes chers frères. Quand les amal, quand les actions accomplies par des gens contemporains remplacent la sunna. Ils ne voulaient pas ça, ces gens-là. Mais que c'est ça ce qu'on appelle le ta'assou. Hein, ça, c'est Allah Moustah. Ça, c'est une réaction malheureusement humaine qu'on retrouve dans toutes les générations. Qu'on voit chez les disciples d'Abu Hanifa, rahimahullah. On n'aime pas parler trop de fiqh, de usul, mais des fois, c'est ça. Les disciples d'Abu Hanifa, rahimahullah, ils savaient que le imam, parfois, il faisait ijtihad. Ils essayaient de trouver une solution à un problème juridique, fiqhi, pour lequel ils n'avaient pas de texte, pas de hadith, pas de ayat, ni de hadith, d'accord? Ils avaient donc recours au qiyas, à l'analogie, d'accord? C'est pas la logique, ça, hein, la qiyas, non, c'est l'analogie. On reproduit le mécanisme d'un autre masla, d'accord? Mais Abu Hanifa avait toujours dit que si à une époque, vous arrivez à une vérité, avec un texte, dans ce cas, vous irez vers cette vérité. Les disciples étaient de cet avis, que le imam a essayé de trouver la réponse. Mais dans 20 ans, dans 30 ans, il y a plus de hadiths qui seront connus, propagés. Alors qu'Abu Hanifa, c'était au début. La science du hadith n'était pas encore aussi répandue qu'à l'époque de, par exemple, l'imam Ahmad. D'accord? Donc, pour eux, c'était logique que si on trouve un hadith, ben, immédiatement, on met en pratique et l'analogie, on le met de côté. Il n'y avait pas le ta'assoub, cet attachement sans raison. Mais de nos jours, hein, quand on parle d'un masla, une divergence d'opinion, que dans notre... Vous voyez, là, immédiatement, on va tirer des mots, hein, des mots qui font peur, hein, des mots graves, en 3 syllabes, qu'on n'ose même pas dire, parce qu'il faudra relire calément. On dit, voilà, lui, il est comme ça parce qu'il ne suit pas le madhab, parce qu'il suit un hadith. Alors que c'était la la volonté du Imam Hanif. Il avait dit que si un jour vous trouvez une opinion qui va à l'encontre de ce que j'ai dit, les termes sont en arabe, prenez ce que j'ai dit et jetez-le contre le mur. C'était une expression. En français, il ne passe pas. D'accord ? Mais en arabe, c'était, ça se disait. Vous le prenez, vous jetez au mur. On pourrait dire jetez aux oubliettes. D'accord ? Et vous mettez en pratique le hadith. Ça, c'était une intelligence humaine. Mais les époques passent et les gens ils finissent par parfois idéaliser, parfois sacraliser. Jusqu'à un moment donné, on a dit que non, là, on ne peut plus toucher, ce n'est pas possible. C'est comme si on a fait un grand Lego, si tu tues une pièce, tout va tomber. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. D'accord ? Donc, voilà comment les grands muhaddithines, eux, ils arrivent à s'entendre. Un qui dit que non, voilà, chaîne de narration n'est pas authentique, voici la preuve. Et on a accepté, et la Oumma a accepté, et il trace ce chemin. On continue à avancer, c'est pas que voilà, lui c'est un groupe, moi c'est un groupe. Si le jour il garde à moi en travers, il va voir. C'est pas que ça de le jouer les gens quand ils ont divergence d'opinion. Allah Moustan, c'est des prises de tête à n'en plus finir. Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter à là, Inch'Allah. On retiendra donc cette description physique qu'on a dit tout à l'heure, une description totalement humaine et contraire à ce que peut-être certains d'entre vous avaient entendu. Et le point qu'on a vu ici aujourd'hui, c'était l'endroit géographique avec, mashallah, une certaine précision et ces trois preuves, la descendance, le lieu géographique et la description physique qui nous mènent vraiment vers cette région du monde. C'est à cet endroit que, inshallah, ils vont sortir. Et quand est-ce qu'ils vont sortir? Quand un jour ils diront inshallah. Et ça, on verra, inshallah, la prochaine fois. Ce qui nous reste à voir vraiment, c'est Dhul-Qarnayn. Là, on a fait une introduction sur Gog et Magog. Il reste un petit point, quand ils vont sortir, à quel moment, et qu'est-ce qui fait qu'ils pourront sortir, et quelles seront leurs erreurs quand ils vont sortir également. Et puis, il y a un chapitre très important sur Dhul-Qarnayn, et étude historique très, 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 très intéressante, qui a été faite par un contemporain, un docteur, non pas un docteur, il s'appelle Hamdi ibn Hamza Abu Zayd, quelqu'un de très intelligent, hein, qui a fait des voyages, qui est parti vers différents endroits, il a visité des pays, etc. etc. Il a donc mené des enquêtes, hein, d'accord. Et il a combiné en même temps la science religieuse à la géographie, à l'histoire des civilisations. Et il démarre son livre immédiatement en donnant une description, en essayant pardon, d'identifier ce fameux Dhul-Qarnayn. Parce que pour connaître bien Ya'juj et Ma'juj, mais il faut connaître l'homme, le héros qui a sauvé les populations contre Ya'juj et Ma'juj, donc Dhul-Qarnayn, et il essaie d'éliminer les différentes pistes, entre autres la fameuse piste d'Alexandre le Grand, hein, que beaucoup hein, on a pensé que Dhul-Qarnayn c'est Alexandre le Grand, et il donne des dalaïls vraiment, hein, c'est extraordinaire, hein, sa méthodologie, sa rigueur dans les recherches, il prouve point par point, élément historique à l'appui, que ça ne correspond pas à ces gens-là, et ça correspond plutôt à ces personnes-là. Et en plus de l'histoire, de l'étude historique, il y a une étude géographique parce qu'il a été dans les endroits où le soleil se lève en premier, où le soleil se couche, où il y a telle chose, et il arrive à déterminer également quels étaient les endroits que Dhul-Qarnayn, les deux extrêmes du monde où Dhul-Qarnayn avait visité et où il a donc construit ce fameux barrage. On verra ça, Inch'Allah, dans deux semaines. Matawfiqi illa billah. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله